VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia avec vous pour cette édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire, le bilan de l'attentat le plus meurtrier en Somalie s'alourdit. Un ex-commandant d'Al-Shabaab demande à ses ex-compagnons d'arrêter la violence. Préparation des élections de l'an prochain en Sierra Leone. Le président Ernest Bai Koroma désigne son ministre des Affaires étrangères comme candidat de son parti. En République centrafricaine, l'opposition dénonce un acharnement de la justice sur certains de ses leaders. Nous reviendrons aussi sur la mort de l'écrivain malien Yambo Wolegem, premier récipiendaire africain du prix Renaudot.
Les gens viennent au pouvoir, moi je ne savais pas, je pensais qu'ils étaient patriotes. Ils viennent pour avoir de l'argent, ils viennent pour rouler dans des voitures climatisées. C'est pas ça, ils viennent pas par patriotisme.
La voix de Yambo Wolegem que vous pourrez suivre dans ce reportage de Mamadou Bokou dans la partie magazine. Et ne ratez pas l'économie et les sports, tout d'abord le journal. L'attentat au camion piégé samedi à Mogadiscio est le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie. Le bilan s'approche des 300 morts et les Somaliens sont toujours sous le choc 48 heures après l'attaque. Ekiabadou.
Le camion a explosé au carrefour K5 dans un quartier commerçant très fréquenté de la capitale somalienne. Le ministère des Affaires étrangères, non loin, aurait pu être une cible. Selon les experts, entre 500 kilos et 2 tonnes d'explosifs ont pu être dissimulés dans le camion. L'explosion a brisé des vitres à près d'un kilomètre à la ronde. L'attentat n'est toujours pas revendiqué. Les chebabs sont pointés du doigt, mais beaucoup s'interrogent sur leur silence, car ce mouvement revendique rapidement ces opérations. Les habitants ont manifesté leur colère. C'est un échec des forces de sécurité. La force de l'Union africaine, avec ses 22 000 hommes dans le pays, sécurise essentiellement les grands centres urbains.
Un jeune manifestant a été tué par balle dans l'ouest du Kenya alors que des centaines de partisans de l'opposition sont à nouveau descendus dans les rues pour demander des réformes en vue de la présidentielle du 26 octobre. La police a encore utilisé du gaz lacrymogène pour disperser la foule à Kisumu, un fief de l'opposant Raila Odinga qui s'est retiré du scrutin. Les manifestants avaient auparavant bloqué des routes, mis le feu à des pneus et lancer des pierres sur les policiers. L'opposition promet des manifestations désormais quotidiennes. Des dizaines de maisons ont été incendiées dans le nord-est de la République démocratique du Congo à la suite d'un conflit entre deux villages provoqué par des accusations d'empoisonnement collectif. Le 10 octobre, les hommes du village d'Umoyo sont allés saccager le village de Djupanduru et ont incendié 78 habitations, provoquant la fuite des habitants vers les localités environnantes. L'ONG Caritas s'est rendue sur place pour évaluer la situation et procéder à la distribution de vivres aux déplacés. Le premier ministre camerounais Philemon Yang mène des consultations à Bamenda, dans le nord-ouest du pays. Il est porteur d'un message de paix et de vivre ensemble dans cette zone en proie à une grave crise sociopolitique. Les explications d'Eric Manirakiza.
Philemon Yang a rencontré des responsables des syndicats de transporteurs, d'enseignants, de vendeuses, des opérateurs économiques, notamment des banquiers. Les participants lui ont soumis des propositions pour une sortie de crise, sans précision sur la nature de ces suggestions. Le Premier ministre poursuit ses consultations demain. Cette visite est consécutive aux violences dans les zones anglophones. Les 22 septembre et 1er octobre, les manifestations ont été violemment réprimées. Félix Agbor-Bala, l'un des leaders anglophones qui préside le consortium de la société civile, s'est dissocié de ces consultations. Pour lui, la libération de toutes les personnes interpellées, un rapport sur le nombre de morts dans les régions anglophones et la convocation d'une table ronde en présence des Nations Unies constituent un préalable à toute concertation. D'après les autorités, entre 10 et 12 personnes ont été tuées, mais les ONG locales et des responsables de l'opposition avancent un bilan beaucoup plus lourd. Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme. Une minorité réclame la partition du Cameroun, deux scénarios que refuse catégoriquement Yaoundé.
Au Nigeria, le leader indépendantiste pro-Biafra, Nnamdi Kanu, est introuvable à la veille de son procès. Sa disparition fait craindre de nouvelles flambées de violence dans le sud-est. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Libéré sous caution en avril, après un mois et demi de détention, le chef du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, IPOB, est censé comparaître ce mardi pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État. Prince Emmanuel Kanou, frère de Namdi, affirme qu'il était présent lorsque les soldats ont attaqué sa maison en septembre. Il a ajouté que son frère est détenu au secret, mais le gouvernement a balayé ses accusations. Un ancien gouverneur de l'État d'Abia a affirmé que Kanou, qui possède la double nationalité, a fui en Angleterre, mais l'ambassade britannique a démenti. Son avocat, Ifeanyi Ijeofor, estime que seule l'armée peut dire où il se trouve, ajoutant « soit ils l'ont arrêté, soit ils l'ont tué ». Le porte-parole du ministre de la Justice, Saliou Othman Issa, estime que la tenue du procès dépendra de la présence ou non de l'accusé. Nnamdi Kanou réclame un référendum d'autodétermination pour le Biafra et a appelé ses partisans à boycotter toutes les élections à venir. Son mouvement est déclaré organisation terroriste par Abuja.
Le nouvel émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, débute ce lundi à Rabat sa première tournée régionale. Il tente de relancer la médiation entre le Maroc et les indépendantistes du Polisario afin de sortir ce vieux conflit de l'impasse. L'ex-président allemand, nommé en août dernier, rencontrera des officiels marocains. Aucun déplacement n'est prévu à Laayoune, principale ville du Sahara occidental. Il doit aussi se rendre en Algérie et en Mauritanie avant de présenter son compte-rendu devant le Conseil de sécurité à New York. En Égypte, 3 policiers et 2 civils ont été tués ce lundi dans l'attaque d'une banque dans le nord du Sinaï. Selon le ministère de l'Intérieur, un groupe de terroristes a attaqué une banque à l'aide d'engins explosifs et d'armes à feu. Les assaillants ont pris la fuite en portant une somme d'argent selon le ministère. Depuis 2013 et la destitution du président islamiste Mohamed Morsi, l'armée et la police affrontent diverses factions extrémistes, en particulier dans la région bouclée du nord du Sinaï. La marine tunisienne a retrouvé 11 dépouilles supplémentaires après la collision entre une embarcation de migrants et un navire militaire. Le bilan est maintenant de 19 morts et des dizaines de disparus. 8 corps avaient été repêchés et 38 personnes secourues par la marine après l'accident du 8 octobre au large de l'archipel de Kerkena. Le bilan pourrait encore s'alourdir et des unités de la marine et un hélicoptère militaire cherchent toujours d'autres cadavres.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Coup dur pour l'opposition au Venezuela. Le camp du président Nicolas Maduro a nettement remporté les élections régionales. L'opposition, pourtant donnée favorite, conteste les résultats. Clairement, Angebourg.
Selon le Conseil national électoral, le Parti socialiste uni du Venezuela, parti du président Maduro, s'est imposé dans 17 des 23 États du pays. L'opposition, donnée gagnante dans les sondages, n'a finalement gagné que 5 États sur 18. C'est un gros échec pour les anti-Maduro qui avaient fait de cette élection un référendum pour ou contre le chef de l'État. Ces résultats éloignent un peu plus la possibilité d'une sortie de crise dans ce pays pétrolier rongé par de graves problèmes économiques et politiques. La Chine, un des principaux alliés de Caracas, a salué un processus électoral en douceur, tandis que la France a fait part de sa préoccupation et a souligné les graves irrégularités. Après 4 mois de manifestations quasi quotidiennes et des violences qui ont fait 125 morts, l'opposition vénézuélienne est maintenant désarmée.
La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, se rendra à Washington au début du mois prochain pour plaider en faveur d'un compromis sur le nucléaire iranien. Le président américain Donald Trump a refusé vendredi de certifier l'accord conclu en 2015, plaidé pour son durcissement par le Congrès et même menacé d'un retrait des États-Unis si cette demande n'était pas satisfaite. Madame Mogherini a estimé ce lundi que l'accord était mis en œuvre avec succès. La coalition internationale dirigée par les États-Unis exhorte le pouvoir central irakien et les autorités kurdes à éviter une escalade alors que des affrontements meurtriers ont eu lieu dans la province pétrolière de Kirkuk, où Bagdad a lancé une opération. Le pompage dans les deux principaux champs pétroliers de Kirkuk a cessé. Ces deux champs ont été pris en 2014 par les combattants kurdes de Peshmerga, profitant du chaos qui régnait à la suite de l'offensive du groupe État islamique. Un haut responsable palestinien s'est rendu dans la bande de Gaza pour faire avancer le transfert d'autorité au poste frontière de l'enclave, point important d'un accord de réconciliation entre les mouvements le Fatah et le Hamas, les deux mouvements palestiniens rivaux. Les deux parties ont signé jeudi au Caire un accord de réconciliation destiné à mettre fin à une décennie de déchirements dévastateurs entre frères ennemis palestiniens. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Jacques Aristide.
Le Gabon a officiellement inauguré ce week-end le nouveau port international de Wendo, près de Libreville, en présence du président Ali Bongo Ondimba. D'après la Gabon Special Economic Zone, il permettra de désengorger l'économie gabonaise, accélérer les échanges, aussi bien à l'import qu'à l'export, avec une diminution des coûts de passage des conteneurs. Construit en 18 mois par le groupe singapourien Olam et d'un coût d'environ 300 millions de dollars, ce port est une modernisation du port existant en périphérie de la capitale. Il comprend des infrastructures modernes, dont d'immenses grues. La gestion de Wendo sera en partie assurée par le géant logistique français Bolloré. Les exportations agricoles de l'Égypte ont augmenté de 13,9% sur les 9 premiers mois de l'année, atteignant 4,1 millions de tonnes contre 3,6 millions l'an dernier. Le ministère de l'Agriculture attribue cette hausse à la libéralisation de la livre égyptienne, entrée en vigueur en novembre 2016, ce qui a eu un impact positif sur la demande étrangère, notamment pour des produits tels que les pommes de terre, fraises et raisins. L'île de Sainte-Hélène, située à près de 2000 km des côtes africaines, est désormais desservie par avion. Le premier vol commercial a atterri ce week-end sur cette petite île britannique, mettant fin à des siècles d'isolement. Elle est célèbre pour avoir abrité l'exil de Napoléon. Sainte-Hélène n'était jusqu'ici accessible que par bateau. 5 jours de traversée depuis l'Afrique du Sud, 6 heures d'avion désormais.
Présent la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Cela se précise encore un peu plus pour Rabah Madjer avec l'Algérie.
L'ancien ballon d'or africain a confirmé les contacts très avancés avec la Fédération algérienne de football pour le poste de sélectionneur national. Une conférence de presse est prévue jeudi. Madjer, qui passa par deux fois sur le banc des Fenech dans les années 90-2000, devrait donc, sauf retournement de dernière minute, succéder à l'Espagnol Lucas Alcaraz en instance de limogeage.
Coupe du monde des moins de 17 ans, veille d'armes pour l'Afrique.
Mali-Irak en huitième de finale de la Coupe du Monde de la catégorie. Ce sera demain à Goa. Et ce lundi, les Allemands se sont qualifiés facilement en battant la Colombie 4-0. Les Américains qui giflent le Paraguay, une victoire 5-0.
La Tunisie, première nation africaine au classement FIFA.
La FIFA a publié la dernière actualisation de son classement mondial des équipes nationales. Après la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 dans la zone Afrique, c'est la Tunisie qui devient la première nation africaine. Elle occupe le 28e rang au classement, plus 3 places, devant l'Égypte 30e et le Maroc qui rentre dans le top 50, 48e, plus 8 points pour les Lions de l'Atlas. Le Sénégal est 32e, devant la RDC 35e. À noter que la Côte d'Ivoire perd 7 places et est maintenant 61e.
L'Égypte repêchée pour le CHAN 2018.
Suite à la désignation du Maroc comme pays hôte du CHAN 2018, le comité d'urgence de la CAF réunie à Lagos a décidé de la qualification de l'Égypte pour le tournoi final. Lors des éliminatoires dans la zone nord, l'Égypte avait été battue par le Maroc à en loco à cette compétition lancée en 2009. Je vous rappelle que le Maroc a été désigné à la place du Kenya. Quant au Mourabitoun de Mauritanie, eh bien, les réserves formulées par le Mali à propos de la qualification ont été rejetées.
Merci Nicolas.
Bye. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En République centrafricaine, l'opposition dénonce l'acharnement du pouvoir contre certains de ses leaders. La semaine dernière, plusieurs personnalités politiques ont été auditionnées par la justice sur les violences à l'intérieur du pays. Chose que la classe politique voit d'un mauvais œil, nous dit notre correspondant Bangui Freeman Sipila.
En août dernier, le gouvernement avait mis en place une commission pour enquêter sur les violences éclatées au mois de mai dans les localités d'Alindao, Niemielwa, Bangassou, Buya et bien d'autres. Trois mois après l'ouverture des enquêtes, la justice convoque une dizaine de personnalités politiques, parmi lesquelles Ferdinand Alexandre Nguindé, ancien président du Parlement de la Transition et numéro un du parti Rassemblement pour la République.
3 heures d'entretien, aucune question concernant des preuves d'accusation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le pays puisse retrouver la paix et qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que le pouvoir est en train d'imaginer, en train d'instrumentaliser. Ce que nous regrettons et que nous condamnons fermement, il ne faudrait pas que le pouvoir judiciaire, qui est considéré comme le rempart du peuple, se laisse instrumentaliser par le pouvoir en place.
Pour l'opposition, il s'agit d'un acharnement ou du moins d'une chasse aux sorcières organisée par le pouvoir. Ferdinand Alexandre Nguindé.
Le premier constat que nous pouvons faire, c'est une véritable chasse aux sorcières à l'attention des leaders de l'opposition. Cette commission d'enquête judiciaire a été mise en place par le ministre de la Justice. Donc il ne peut qu'agir sur instruction du président de la République et du premier ministre chef du gouvernement. Le pouvoir en place, au lieu de s'occuper des questions sécuritaires, leur seul objectif aujourd'hui, c'est de regarder 2021. Ils oublient les nombreuses souffrances du peuple centrafricain. L'objectif, qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est de chercher à invalider les potentiels candidats aux prochaines élections présidentielles.
Selon le parquet de Bangui, ces auditions n'ont rien d'extraordinaire. Elles répondent à l'exigence de la loi. Éric Didier Tambo, procureur général près la cour d'appel de Bangui.
Depuis le 1er août 2017, nous avons commencé à investiguer sur ces crimes de masse qui ont eu lieu dans ces villes précitées. Et nous avons entendu beaucoup de gens. Et toujours dans le cadre de la recherche de la vérité, puisque nous sommes en train d'investiguer, nous avons invité le président Nguindé et Mbonigumba. Vous vous souvenez que c'est des personnalités de ce pays qui ont géré ce pays. Entre-temps, certaines personnes les ont accusés en public, devant la presse, d'être les présumés auteurs de ces faits-là. Et donc, par rapport à cela, nous avons convoqué les gens qui ont fait la dénonciation à la radio et ont fait les conférences de presse. Ils sont tous passés ici devant la commission, nous les avons entendus. Et bien, nous avons pensé que puisqu'on les a accusés, et ces faits-là sont assez graves ici, et il fallait les auditionner sur ces faits-là. Mais nous avons pris soin de les inviter à venir et à être auditionnés comme témoins. C'est dans ce cadre-là que nous avons invité à venir être auditionnés.
Sur la question d'instrumentalisation de la justice par le pouvoir, le procureur général répond.
La loi nous dit, quiconque a des informations, si nous pensons qu'on doit interroger telle ou telle personne, on va le convoquer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Instrumentaliser par qui? Dans la mesure où vous savez qu'en République centrafricaine, nous avons notre constitution, la dernière constitution parle de 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et que le pouvoir judiciaire est indépendant. Il n'est pas interdit à quelqu'un d'être entendu dans d'autres cieux. Par exemple, en France, quand les hommes politiques sont interpellés ou entendus dans une procédure, ils viennent spontanément. S'ils pensent qu'il y a des charges, ils démissionnent. Et quand ils viennent devant la justice, quand la justice les blanchit, sensiblement, ils rebondissent en force.
Selon la justice, l'enquête se poursuit et les auditions également pour faire la lumière sur les accusations portées à l'endroit de certaines personnalités sur la montée des violences à l'intérieur du pays. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Les retraités du Tchad tirent le diable par la queue. Réunis en Assemblée générale ce week-end à la Bourse du Travail de N'Djamena, ces retraités exigent la totalité des 4 coupons qui correspondent à 4 trimestres, alors que le gouvernement propose de payer un seul coupon à partir de ce lundi. André Kolmajingar nous fait le point.
Les responsables de la Fédération des syndicats de retraités civils, militaires, veuves et orphelins du Tchad ont du mal à faire la restitution de la rencontre qu'ils ont eue avec les responsables de la caisse qui le gère. Assis sur le sol ce week-end sous les nimes de la Bourse du Travail, puisque rattrapés par le troisième âge, certains s'expriment à peine sur leur situation. il refuse catégoriquement la proposition de la Caisse nationale de retraités relative au paiement d'un seul coupon sur quatre à partir de ce lundi.
Maintenant, avec nos enfants, nous sommes au bord de la rue parce qu'on n'a pas payé la location pendant une année. Et vous parlez de deux coupons, un coupon 29 400 francs. Vous n'avez même pas honte de prononcer ce un coupon-là.
Ils vont nous traîner avec un coupon qui le disent là jusqu'en janvier, c'est une franche vérité.
Nous, les veuves, nous voulons deux coupons. On ne peut pas accepter un coupon, il faut trois.
Nous ne sommes pas des mendiants, nous revendiquons ce qui nous revient de droit. Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'argent au Tchad, il y a l'argent. Ces deux coupons-là même, j'en suis contre, moi j'en veux quatre.
Même préoccupation pour les retraités des provinces du Tchad. Jean-Baptiste Laoukoulé est le secrétaire général de la Fédération des syndicats de retraités du Tchad.
Compte tenu de la situation, le minimum que la province de Moundou peut accepter, c'est deux coupons. Cette réponse est la même pour Koumra, pour Kélo, pour Bangor. Nous n'avons pas encore reçu la réponse de Abéché, de Mahou, de Faya.
Un retraité qui a tenté de convaincre les autres à accepter un coupon avant de lutter pour le reste a failli être lynché, n'eût été l'intervention de quelques-uns.
Acceptons prendre un coupon, mais je conseille le prêt. Attention, je dis attention d'abord. Écoutez, s'il y a contraire, écoutez d'abord. Attendez d'abord, attendez. Il vous manque d'informations, camarades. Je vous dis la vérité.
Pour empêcher leurs collègues retraités comme celui qui vient de faire cette proposition de venir à la caisse ce lundi, des résolutions fermes ont été prises.
La solution, c'est de fermer pas la caisse, mais les guichets. Entendons-nous.
Oui, dans le bureau, mais les guichets ont fait.
Aucun retraité ne va rentrer aussi.
Plus vous partez pas, plus vous
les emmener. Ce que nous allons faire, nous allons tout mettre en œuvre pour empêcher les compatriotes qui peuvent venir toucher un coupon.
Dès lors, le bras de fer est engagé entre gouvernement et retraités du Tchad. Pour payer un coupon à tous les retraités, il faut débloquer 4,5 milliards de francs CFA, alors que ces retraités revendiquent au total 4 coupons estimés à environ 20 milliards de francs CFA. André Kodmadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
L'écrivain malien Yambo Wologem est décédé hier à l'âge de 77 ans à Sévaré, dans le centre du Mali. Yambo Wologem est le premier Africain à avoir obtenu le prix Renaudot. Il avait été récompensé pour son roman « Le devoir de violence » publié au Seuil en 1968. Par la suite, il a été accusé de plagiat et ramené au Mali. Il n'avait plus fait d'apparition publique. Et voici son portrait avec notre correspondant Mopti Mamoudou Bokoum.
Ce fils unique d'un inspecteur d'enseignement est né dans le pays d'Ogon il y a de cela 77 ans. Yambo Wologem, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a fait ses études secondaires à Bamako avant de se rendre au lycée Henri IV en 1960 en France. Brillant étudiant, l'enfant de Bandiagara est licencié S-Lettres. Il a obtenu également sa licence en philosophie, puis un diplôme d'études supérieures en anglais et un doctorat en sociologie. Avec sa belle plume, Yambo Wologem a publié plusieurs écrits, dont le plus célèbre est « Le devoir de violence ». Ce qui lui a valu le prix Renaudot en 1968 et il a été le premier Africain à l'obtenir. C'est ce même roman qui a été source d'inquiétude pour lui. L'enseignant du lycée Charenton à Val-de-Marne, en banlieue parisienne, est toujours avec sa passion pour l'écriture. Ambibé Wologem est son fils cadet.
Les activités qu'il mène, il aime parler et il aime écrire tout le temps parce que l'écriture, c'est une passion. Il le fait très souvent. Mais il m'a quand même demandé de ne publier aucun de ses écrits parce que, comme il a été accusé une fois, il dit que même s'il ne serait plus là, qu'il m'a demandé de ne jamais publier ses romans. Sinon, on va m'accuser moi aussi de dire des choses que je ne voulais pas dire au bec. Voilà.
Polyglotte, cette référence africaine et mondiale était un grand musulman praticien. Pour lui, toute création est divine. Yambo Wologem.
Les gens se promènent avec des sacoches. Là. Et ils ont des photos là, on a dit création d'emploi. Dieu crée la vie, Dieu crée la mort, Dieu crée le soleil, Dieu crée la lune. Toi, tu dis que tu crées. Des présidents, même européens, s'amusent et le français est leur langue. Ils ont là décret portant création, loi portant création. Non, on dit décret portant institution. décret portant inauguration, mais on n'emploie pas le mot création. Dieu est le seul créateur.
L'auteur de Les Mille et une Bibles du sexe a une vision critique pour nos dirigeants d'aujourd'hui.
Les gens viennent au pouvoir, c'est moi je ne savais pas, je pensais qu'ils étaient patriotes. Ils viennent pour avoir de l'argent, ils viennent pour rouler dans des voitures climatisées. C'est pas ça, ils viennent pas par patriotisme.
Depuis 53 ans, cet habitué des grandes villas et de grands restaurants occidentaux était dans les oubliettes à Sévaré Mopti avec sa femme Korka dans une situation peu digne d'un homme de son rang. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et pour autant, l'écrivain Yambo Walegem et son œuvre, Le devoir de violence, est-il vraiment connu au Mali? Je vous propose les réactions de quelques jeunes Maliens à Bamako.
Moi, je m'appelle Ousmane Diakité, journaliste et reporter. Yambo Walegem est un écrivain malien Dogon, né à Badiangara, domicilié à Sévaré. Yambo Walegem a fait plusieurs œuvres, dont Les devoirs de violence, publié le 1er septembre 1968 aux éditions du CI, ayant reçu le prix de Renondo la même année. Il s'agit du premier roman africain qui a reçu ce prix. Il nous parle dans ce roman quatre grandes choses, parmi lesquelles il nous parle de la légende des Saïfs et il nous parle de l'extase et l'agonie. Après, il nous parle de la nuit des géants et enfin, il nous parle dans ce roman l'aurore. C'est un grand roman. Il veut que les gens comprennent les tenants et les aboutissants des violences et enfin que les auteurs là cessent de ne pas le faire. Tout le monde sait qu'en Afrique, Yambo Walegem, c'est un écrivain très engagé et sa plume, ce qu'il met, c'est pas pour plaire et non déplaire, mais c'est de tremper dans la plaie des gens afin de relever les défis.
Je m'appelle Alpha Ndiaye, je viens du collège Horizon Amdalé ACI 2000. J'ai entendu parler de Yambo Walegem. C'était un grand écrivain malien. C'est mon grand frère qui m'a un peu parlé de lui.
Je m'appelle Bakary Keita. Franchement, je ne connais pas Yambo Walegem, mais quand même j'ai entendu parler de lui. Bon, sinon, moi, personnellement, je ne le connais pas en tant que tel.
Je m'appelle Aminu Kone, opérateur économique. Yambo Walegem, qui est un écrivain émirant. Je l'ai lu il y a longtemps, je ne me souviens pas.
Oui, je me nomme Sempara Abdel Mohamed. Yambo Walegem, oui, je le connais. C'est un écrivain malien détenu Dogon. Je le connais, mais malheureusement, son œuvre, Devoir des violences, malheureusement, je ne l'ai pas lu.
Bon, je m'appelle Mamari Koulibaly Dibiton. Je suis professeur de français. Yambo Walegem, c'est un écrivain malien. Il a écrit beaucoup. J'ai lu certaines de ses œuvres, mais cela fait un peu longtemps quand j'étais étudiant. À ce que je sache, c'est utile vers le secondaire, mais il n'utilise pas. Le programme malien n'utilise pas. J'ai lu quelques œuvres de Yambo Walegem, mais cela fait un peu longtemps. Je ne m'en souviens pas.
Je suis Hassan Traoré. Je ne connais pas Yambo Walegem en personne, mais j'ai entendu son nom un peu partout au Mali. Il y a des écoles où on étudie ses livres. C'est un roman, quoi. Nous, on n'a pas fait l'étude de son roman, mais j'ai entendu son nom.
Moi, c'est Gabriel Tchenou. Oui, Yambo Walegem, ce que je connais de lui, un peu, tout peu. Je sais que c'est un écrivain malien, et originaire de la 5e région, Mopti, précisément de Badiangara. Il est aussi l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, à savoir Devoir de violence, comme aussi d'autres textes. Je sais aussi qu'il y a un prix littéraire qui est décerné chaque année lors de la rentrée littéraire, renommé le prix Yambo Walegem.
Des réactions de jeunes Maliens sur l'écrivain Yambo Walegem, recueilli à Bamako par Kassim Traoré.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
De cette édition, merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Sims Lumami. À la console, Audrius Regis, présentation Abdurrahman Dia. Dans quelques instants, un point sur l'actualité avec Henri Francisque. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.